France Inter.
Romancier, poète et enseignant né au Vietnam et emmené aux États-Unis par sa mère à l'âge de 2 ans, Ocean Vuong a publié les recueils de poèmes « Ciel de nuit blessé par balle » et « Le temps est une mère ». Dans son roman « Un bref instant de splendeur », un fils adresse une lettre bouleversante à sa mère analphabète employée dans un salon de manucure, comme l'était la mère de l'auteur. Notre invité dépeint avec une sublime délicatesse, un lyrisme virtuose et une mélancolie abyssale les vides intérieurs des individus blessés et l'Amérique des marges. La version française de son roman « L'empereur de la joie » vient de paraître chez Gallimard dans une traduction d'Hélène Cohen. Le verbe y est toujours aussi sombre et émouvant, mais il est dans ce texte émaillé d'humour et fait la part belle à l'imaginaire, seule richesse des êtres démunis. Ça commence par la tentative de suicide de Hai, jeune drogué d'origine vietnamienne qui a quitté le domicile de sa mère à laquelle il fait croire qu'il étudie la médecine loin de chez lui dans une bonne école. Gradzina, vieille dame veuve et ancienne réfugiée lituanienne qui commence à perdre la tête, l'empêche de sauter du pont sur lequel il se trouve et l'amène chez elle, un logement délabré où il va élire domicile. Une drôle de cohabitation va se mettre en place et donner naissance à une amitié inattendue. En parallèle du roman, sortent en poche chez Gallimard et réunis dans un même ouvrage les recueils « Ciel de nuit blessé par balle » et « Le temps est une mère ». La traduction ce soir sera assurée par Marguerite Capelle, qui a justement traduit les poèmes de notre invité avec Marc Charron. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Ocean Vuong.
Hello, thank you so much for having me.
Ah ben bonsoir,
merci
là.
De me recevoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
My aunts are with me in
Mes
France.
Tantes sont ici avec moi en France.
And this is the first time they're in Europe.
Et c'est la première fois qu'elles viennent en Europe.
They're in France, of course.
C'est la première fois qu'elle vient en France, bien sûr.
Went right away to the Eiffel Tower,
et tout de suite, on est allé voir la Tour Eiffel.
I think they took over 1,000 photographs.
Où je crois qu'elles ont dû prendre à peu près 1,000 photos en une heure.
And to see them, the women who raised me.
Et voir ces femmes qui m'ont élevée.
In nail salons and factories.
Dans ces salons de manucure et ces usines.
Be so thrilled.
De les voir aussi
like
excitées,
girls,
enthousiastes comme des petites filles.
It was such a moment of great.
Ça a été vraiment un moment de grande fierté et d'enthousiasme pour moi.
It is hard to say what is success for a writer.
C'est difficile de définir le succès quand on est écrivain.
Parce que the world and
la plupart
readers.
De ce qu'on fait est quelque chose qu'on livre ensuite au monde, aux lecteurs, aux lectrices.
To have my words,
mais
which
voir
weigh nothing,
mes mots qui ne pèsent rien,
make my aunts laugh,
faire rire
like a
mes
magic
tantes,
spell.
Ça,
so
c'est comme un sortilège, comme un tour de magie.
Reeling from that high.
Et je suis encore en train de savourer ce plaisir.
Vous avez publié 2 magnifiques romans et 2 magnifiques recueils de poésie. Bon, je suis un peu biaisée, mais vous êtes un des écrivains que j'admire le plus vivant, ce qui est rare quand même. Vous vous voyez plus comme un enseignant que comme un écrivain.
Oh, thank you so much. It's an honor to.
Merci, c'est
to be considered
un honneur
the best of anything.
D'être considéré comme le meilleur en quoi que ce soit.
I think, for me, the work of a writer.
Pour moi, le travail d'écrivain, c'est un travail occasionnel. Je ne sais pas ce que c'est que de donner naissance à quelqu'un, mais je me sens plus de relation avec ce genre d'entreprise que avec l'idée peut-être de fabriquer quelque chose. Ou de...
En fait,
je n'ai pas envie de devenir une usine, une fabrique de quelque chose. Je crois que c'est important pour un écrivain à la fois de bien commencer, qu'on travaille sur un poème ou sur un roman, mais aussi de bien finir et de savoir aussi mettre un terme à sa carrière. C'est pas parce que vous avez un éditeur que vous devez ou pouvez continuer à écrire. Et donc, quand je me demande ce qu'est ma vocation, ce que je suis sûre de pouvoir faire jusqu'à ce que mon cerveau ne fonctionne plus, je crois que c'est une vocation de professeur, d'enseignant. Je pense pouvoir être utile à de jeunes écrivains tant que je vivrai, alors que pour ce qui est d'écrire moi-même, je m'attends à y mettre un terme un jour.
Donc vous serez l'un des rares à y mettre un terme un jour, comme par exemple Philip Roth.
Yeah, I was coming home one day when I was 22.
Un jour, quand j'avais 22 ans, je rentrais chez moi
radio,
et j'ai
heroes,
entendu à la radio publique Annie Dillard, qui est une de mes héroïnes.
And right away, my ears perked up, and I said, "Oh my goodness, she must have a new book out."
Je me suis dit, ah, eh ben,
I can't wait to go to the bookstore.
Elle doit sortir un nouveau livre. J'ai tendu l'oreille. J'ai hâte d'aller en librairie et de pouvoir lire un nouveau livre qui va rendre ma vie meilleure.
To the reason why she's there, she said,
et puis quand j'ai compris pourquoi elle était à la radio, en fait, c'était pour annoncer qu'elle prenait sa retraite. Et immédiatement, le journaliste a réagi comme si elle devait avoir un problème. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que c'est un problème de démence sénile? Et j'ai trouvé que c'était une question très américaine. Ah, votre usine est en panne. Donc quelque chose a mal tourné. Elle a dit quelque chose de très puissant. Elle a dit non. Un matin, je suis allée à mon bureau et je me suis rendu compte que j'avais terminé tout ce que j'avais prévu de faire et que je n'avais plus une seule phrase à ajouter à mon œuvre. Et je suis très fière de ce que j'ai accompli. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement fort pour une écrivaine de faire ça. De mettre autant de soin dans la création d'une œuvre avec une attention délibérée pour pouvoir un jour dire « j'en ai fait assez ». Et aujourd'hui, je peux vivre une vie dans laquelle ma pensée ne sera pas transformée en produit. Je ne sais pas ce que j'en ai pensé, mais je me suis dit en tout cas que j'avais envie d'être à la hauteur de cette aspiration qui me semblait beaucoup plus noble qu'une production infinie et éternelle.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Mon corps, topi impitoyable. Et si par bonheur je vivais avec lui, dans une sorte de familiarité usée, comme avec une ombre, comme avec ces choses de tous les jours, que finalement je ne vois plus et que la vie a passé à la grisaille, comme avec ces cheminées, ces toits qui moutonnent chaque soir devant ma fenêtre. Mais tous les matins, même présence, même blessure. Sous mes yeux se dessine l'inévitable image qu'impose le miroir. Visage maigre, épaules voûtées, regard myope, plus de cheveux, vraiment pas beau.
Michel Foucault sur France Culture en 1966. Ocean Vuong, vous avez eu des années scolaires difficiles. Vous avez étudié ensuite au collège du soir avec des mères au foyer, des personnes âgées qui voulaient passer leur bac. Et vous dites que c'est là, pour la première fois, que les professeurs vous ont donné l'autorisation de vous projeter et notamment de lire Foucault. Et que même si vous ne compreniez pas tout, ça a été décisif pour vous.
Yeah, my community college teacher in night school.
Oui, mes enseignants, effectivement, en cours du soir au collège communautaire, nous enseignaient Foucault, nous enseignaient Baldwin, Toni Morrison, nous les faisaient lire. Et la salle de classe, c'était plus qu'une place du village. Il y avait effectivement des mères célibataires qui berçaient leurs bébés avec leurs pieds. Il y avait des gens qui avaient 70 ans et qui s'ennuyaient. Et
elle a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit à moi, une
de ses enseignantes a dit quelque chose de très intéressant. Elle a dit, il y a beaucoup de choses qui vont vous passer par-dessus la tête,
mais
ce qui restera sera très important, parce que ce dont on parle, ce n'est pas nécessairement de la littérature. On ne parle pas seulement de grammaire, de règles. On utilise les mots, la langue, pour comprendre la vie. Et c'est là que j'ai compris le véritable pouvoir de la phrase. Jusque-là, on me disait qu'une phrase, c'est un ensemble de règles qu'il faut apprendre pour s'habituer, se former à une vie productive, écrire un bon CV, une lettre de motivation, un email respectable. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'une phrase pouvait être une pelle, une pioche qu'on allait utiliser pour creuser et qui permettrait de comprendre ce qui vous a été caché toute votre vie.
Je crois que c'est dans un bar que vous avez véritablement appris à écrire, et notamment lorsque vous écriviez pour des ateliers d'open mics, de micro ouverts.
Yeah, I started in the bars in New York City.
Oui, j'ai commencé dans les bars de New York.
You know, it was actually an incredible and formidable education.
C'était vraiment une éducation incroyable pour moi, une formation incroyable parce que vous vous inscrivez pour ces sessions open mic, vous avez trois minutes pour venir lire un poème.
If you can get the day drinker
et si les gens qui sont venus picoler
from his $4 Guinness,
lâchent leur Guinness à $4,
of all things, a poem.
Et s'intéresse à votre poème,
close to a miracle,
c'est presque un miracle.
And not only that, but after the open mic,
et après cette session d'open mic,
you can sit in a
quand on paye $3 ou $4 de plus, on peut aussi participer à un atelier.
Formal,
des ateliers qui étaient toujours consacrés à de la poésie rimée, les règles formelles, le sonnet.
I learned probably some of the most rigorous.
Et c'est donc là que j'ai appris les méthodes probablement les plus rigoureuses de la poésie dans l'arrière-salle de ces bars.
People who were houseless.
Et parfois, vous pouviez être avec des gens qui étaient sans domicile, qui venaient simplement pour être au chaud, mais qui avaient aussi des choses à dire et qui contribuaient à l'échange. C'était vraiment comme ces cours du soir, ou comme ces groupes punk auxquels j'ai participé et où j'ai découvert Rimbaud pour la première fois. C'est vraiment des œuvres que j'ai découvertes par hasard. Parce que tout ça était déjà profondément présent dans la culture. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne m'avait jamais dit avant. On m'avait expliqué que la poésie, l'art, c'était quelque chose qui était conservé dans les institutions, qui était caché. Et pourtant, c'était là, vivant et partout autour de moi.
La littérature, ça s'apprend, Ben Lerner ? Et l'écriture aussi ?
Je crois que c'est possible d'aller plus loin dans votre relation à la langue, toujours. Je crois qu'il est possible de lire et d'écrire en compagnie, de façon à produire un environnement dans lequel la langue peut se trouver malaxée et perturbée. Mais je ne crois pas que c'est en classe que l'on devienne ou pas un écrivain, non.
But I feel very lucky to make a living
and
to talk to
de pouvoir
a diverse
vivre
group of people about their own
de ça
language.
Et de pouvoir parler à plusieurs groupes et avoir parler de langue avec eux.
C'est Bern Lerner qu'on entend dans la grande table sur France Culture en 2016 au micro d'Olivia Gesbert. Ocean Vuong, il a été l'un de vos professeurs à l'université et vous dites qu'il a vu déjà quelque chose en vous et qu'il vous a prévenu en vous disant « Tu seras objectivé, ils feront de toi, entre guillemets, le grand écrivain immigré, le grand écrivain asiatique, mais tu dois trouver une manière d'être toi. Et la seule chose sur laquelle vous aurez du contrôle, ce sont sur vos propres pages.
» I get emotional just hearing his voice.
Ça m'émeut rien que d'entendre sa voix.
He's such a special person because
c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel parce que
he never treated his students like students.
Il n'a jamais traité ses étudiants comme des étudiants.
He treated everybody like a peer.
Il traite chacun comme un père.
He taught as if we were
au même niveau et nous enseigne
him,
comme si on avait les mêmes capacités intellectuelles que lui, ce qui n'est clairement pas le cas. Quand un professeur fait ça, il repousse la hauteur de plafond et il vous permet de grandir davantage. Un jour, dans le couloir, il est venu me voir et il m'a dit « Tu as l'air d'être vraiment sérieux, on devrait faire des cours individuels. » Et pour Ben, ce que ça signifiait, c'était le suivre.
And he just kept dumping knowledge into
comme
my
si j'avais une sorte de panier métaphorique dans lequel
and
il n'arrêtait pas d'entasser du savoir.
He didn't get any extra pay for that,
et il n'était pas payé pour ça.
But I think what is true
il n'était pas obligé
this,
de le faire.
Species-old tradition of art is
mais
that
je crois
it is a civic duty.
Il y a quelque chose de très vrai au sujet de l'art, c'est que c'est un devoir civique. Aucun écrivain, en réalité, n'écrit seul, n'écrit dans l'isolement.
Communal medium, which
on travaille avec un médium qui est communautaire et démocratique, c'est la langue. La langue n'existe parce qu'il y a un consensus sur le sens des choses. Le vert est vert parce que la plupart d'entre nous sommes d'accord là-dessus, même si peut-être 2% pensent que le vert est violet. L'accord permet de se mettre d'accord sur le sens.
Of what
Et c'est une métaphore de l'écriture, pour moi.
I think Camus said it best as well. He says,
Camus l'a très bien dit aussi, je crois.
In our humanity's darkest hour,
même dans les heures les plus sombres de notre humanité, dit-il, l'acte d'écrire est un acte d'espoir.
It holds the possibility of being read.
Parce qu'il contient la possibilité d'être lu. Et si vous pouvez être lu, vous n'êtes jamais seul. Et même si vous n'êtes pas lu de votre vivant. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour le fait d'avoir non seulement été lu de mon vivant, mais surtout d'avoir eu un enseignant qui a reconnu mes capacités bien avant que moi-même j'ai compris ce dont j'étais capable.
Vous citez Camus, et qui, je le rappelle, dont la mère était aussi analphabète. C'est donc une analogie qui n'est pas anodine. Vous écrivez dans Même pas, le poème Même pas, dans Le temps est une mère. Avant j'étais pédée, maintenant je suis primée. Une fois, une soirée organisée sur un rooftop de Brooklyn pour une ambiance arty, une jeune femme m'a lancé en sirotant son verre. T'as trop de chance, t'es gay, et en plus tu peux écrire sur la guerre et tout. Moi je suis juste blanche, j'ai que dalle. Et vous avez dit récemment dans une soirée à la Maison de la Poésie que si vous commenciez à vous réduire simplement à un auteur queer ou asiatique, ce serait un grand manque de respect envers le lecteur, puisque justement vous réduiriez la fonction de l'imaginaire collectif que vous venez d'évoquer. Est-ce que vous arrivez tout de même à vous amuser de l'ironie de la situation que vous décrivez dans le poème « Même pas » ?
You have to laugh to survive moments like that.
Il faut en rire pour survivre à ce genre de moments.
That incident did happen.
Cet incident que je décris dans le poème, ça m'est arrivé.
To many people of color.
Et c'est arrivé à beaucoup de personnes non blanches.
You have to learn to laugh in order not to cry.
Et je crois qu'il faut apprendre à rire pour ne pas en pleurer. Mais cette ironie de cette personne qui dit j'ai que dalle,
in an American empire
alors qu'elle
built on racial
vit
violence,
dans cet empire américain construit sur la violence raciste, en soi,
that's representative of the country itself.
C'est très représentatif du pays.
I'm not so much hurt by it, but interested.
C'est pas quelque chose qui me blesse, mais plutôt quelque chose qui m'intéresse.
Of impoverishment come from?
D'où vient cette idée d'un appauvrissement, et qu'est-ce qui lui donne l'assurance qui lui permet d'exprimer ça?
I try not to judge too much as a writer.
J'essaie de ne pas trop juger en tant qu'écrivain.
Why words exist for certain
Je m'intéresse plutôt aux raisons qui font que certains mots existent pour certaines communautés, et où sont les racines de tout ça?
Vous avez tenu à maîtriser le vietnamien pour, je vous cite, restituer la dignité de vos aînés. Est-ce que c'est votre mère qui vous l'a appris ou est-ce que vous l'avez appris tout seul? Et je rappelle que la communauté américano-vietnamienne dont personne ne parle revient à peu près 1,5 million de personnes aux États-Unis.
Vietnamese is my mother tongue.
Le vietnamien, c'est effectivement ma langue maternelle.
The tongue that I have this very specific association with.
C'est une langue avec laquelle j'ai un lien très particulier.
The language of my family.
C'est la langue de ma famille.
It's the language of the most vulnerable parts of life.
C'est la langue de ce qu'il y a de plus vulnérable dans ma vie.
We get to confess
c'est
how
aussi
painful it is
une
to
langue qui
work
nous pousse à
hours
à avouer à quel point ça peut être douloureux de travailler des heures dans des usines. C'est la langue que nous utilisons pour exprimer nos douleurs et nos hontes.
Particularly for the diaspora, for refugees.
Mais pour la diaspora en particulier, pour les réfugiés, c'est une langue qui est presque comme un tiers lieu.
And I think for
comme
me,
pour Paul Celan, l'allemand.
There was a moment when I was young where my mother said, "We're
sitting." Il y a un moment quand j'étais jeune,
out the window,
je me souviens que ma mère a dit, nous étions devant la fenêtre à Hartford à admirer un ciel nocturne d'été avec une pleine lune.
This might be a beautiful
Et elle m'a dit. Mon fils, cette lune est peut-être magnifique, mais la pleine lune de Hartford ne sera jamais aussi belle que la pleine lune de Saigon. Ce qu'elle faisait, c'était rendre exotique le pays d'origine. Elle sait que c'est la même lune, elle n'est pas idiote. Cette façon d'exotiser, c'est le tabou ultime pour les écrivains quand on écrit sur sa propre culture. Mais c'est un jugement que je récuse parce qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe entre une mère et un fils, entre deux Vietnamiens qui parlent ensemble. En littérature, il y a le sous-texte et le contexte. Le contexte, c'est qu'elle parle de la lune, mais le sous-texte est complètement unique. Et il est lié à l'expérience commune d'être réfugié.
for a native in Vietnam.
Donc cette phrase ne peut pas exister pour un Vietnamien qui vit au Vietnam, elle n'existe que pour le réfugié. Et ce qu'elle dit, en réalité, c'est « Je me sens tellement seule, j'ai perdu mon chez-moi, je ne sais pas comment le retrouver, je ne peux que partager avec toi ce fantasme hyperbolique et exoticisé du chez-soi parce que je ne peux plus revenir à mon lieu de naissance et ce n'est pas mon choix. » Donc il y a un deuil, une douleur dans cette phrase et c'est ça que je souhaite conserver.
Tout à l'heure, vous avez dit que le vietnamien était la langue de la vulnérabilité. Dans Le temps est une mère, on apprend que amour et faiblesse se prononcent presque pareil en vietnamien. Et à un moment, dans votre dernier roman, L'Empereur de la Joie, le héros dit à son cousin « Notre espèce n'a aucune consistance. Parle à n'importe qui pendant plus d'une demi-heure, tu verras que sa vie est bidon, que tout ce qu'on fait, c'est pour éviter de nous effondrer. Et enfin, être mal dans sa peau, c'est la chose la plus normale au monde. » Et je voulais revenir sur ça parce que c'est une idée qui, je pense, pourrait faire énormément de bien à beaucoup d'auditeurs, savoir que la vulnérabilité, c'est l'état naturel de l'être humain.
I think so. It might be just my observation.
C'est peut-être simplement ce que moi j'observe.
You know, it doesn't take
chez notre espèce. Mais il n'y a pas besoin de s'y attarder beaucoup pour voir que nous sommes très tendres en tant qu'espèce. Nous sommes vulnérables à l'intérieur, à l'extérieur. Je crois que nos réalités les plus dévastatrices nous viennent d'hommes, en particulier d'hommes politiques qui nient leur vulnérabilité. Et qui justement prétendent l'effacer par leurs actes et répondent à cette vulnérabilité par une violence absolue, par une domination absolue pour la cacher plutôt que pour l'affronter.
You know, being vulnerable is a courageous
thing. Être vulnérable, pour moi, je dirais même que c'est quelque chose de courageux, parce que c'est ce que nous sommes.
Underneath everything we are, that is the reality of our species.
Au-delà de toutes les apparences, c'est ça la réalité de notre espèce.
Incredible ideas.
Et des œuvres d'art incroyables sont nées de cette vulnérabilité. Des idées incroyables. L'amour, les possibilités viennent de cette capacité à reconnaître notre vulnérabilité. Et donc, je crois que si on se prive de tout ce qu'on a construit pour cacher cette vulnérabilité, ça va devenir le socle de tout en réalité. Et c'est à partir de là que beaucoup de choses belles peuvent jaillir, peuvent pousser, si on prend soin de cette vulnérabilité.
Alors en parlant de soins, pour vous, le soin, c'est la colère améliorée. Vous ressentiez beaucoup de colère à vos débuts en poésie. Où en êtes-vous de la colère et qu'entendez-vous par le soin et la colère améliorée ?
I think anger is an energy.
Je crois que la colère est une énergie.
But so is love and compassion.
Mais l'amour et la compassion aussi.
The problem with anger is that
it's radioactive. Le problème de la colère, c'est qu'elle est radioactive.
It's a power that destroys the wielder.
C'est un pouvoir qui détruit celui qui le manie et qui détruit le monde autour de lui.
But it harms us while we do it.
Obtient beaucoup de choses, mais qui nuit énormément autour de soi, exactement comme les armes nucléaires. Donc pour moi, quelque chose de beaucoup plus efficace, effectivement, c'est le soin. Mais je ne pense pas que le soin ou la compassion soit à l'extrême opposé du spectre par rapport à la colère. Je crois que si on pousse la colère jusqu'au bout de son cycle, on y trouve le soin. Après avoir piqué une crise, après avoir insulté quelqu'un, très souvent, quand on observe les personnes qui viennent de commettre des actes de violence ultime, il y a une expérience de désespoir absolu et de regret. Et ce moment de regret, ce désir de réparer les choses, pour moi, est intimement lié à la colère. C'est seulement l'autre face de la même pièce, le revers de la médaille. Mais pour moi, en tant qu'écrivain, en tant que personne, la question que je me pose, c'est si la colère est si destructrice et que le soin est une partie inhérente et inévitable derrière cette colère, je devrais toujours attendre que la colère m'ait traversée avant d'agir. Et je suis plus productif en tant qu'artiste quand je me relève après la crise, après avoir insulté tout le monde, au moment où je regrette ce que j'ai dit à ceux que j'aime, au moment où je me relève, et que je me dis, bon, je dois nourrir mes animaux, je dois répondre aux emails de mes étudiants, je dois emmener ma tante chez le médecin. Je suis toujours dans cette continuité de la colère, mais je suis dans un moment beaucoup plus puissant et productif parce que ce moment ne me détruit pas. C'est une source d'énergie.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
C'était un soir où je feuilletais comme ça des... J'égrenais des photographies qui étaient dans un carton que j'avais retrouvé. Alors, je parcourais des photos d'elle à travers toute sa vie, tous ses âges. Et au fond, je ne la retrouvais pas vraiment, n'est-ce pas ? Et donc, c'était assez douloureux. C'est-à-dire, c'était d'assez bonnes photographies, mais ça donnait son identité civile. C'est-à-dire, ce par quoi on ne l'aurait jamais confondu avec une autre femme. Mais mon amour ne la retrouvait pas, en quelque sorte. Et puis tout d'un coup, effectivement, je suis tombé sur cette photo où elle n'était qu'une petite fille, donc une photo très ancienne et assez pâlie. Et tout d'un coup, par une sorte de miracle qui m'a vraiment submergé d'émotions difficiles à dire, j'ai retrouvé vraiment son air, c'est-à-dire, je dirais, la vérité. Non pas la vérité de ses traits morphologiques, mais la vérité de son expression, son air moral, enfin, tout ce que j'aimais en elle, je l'ai retrouvé alors que ce n'était qu'une photographie de petite fille. Et c'est à partir de là que j'ai pu réfléchir un petit peu sur cette violence de la photographie, une violence qui se définit par le fait que justement la photographie, en fait, n'assouvit jamais la demande du souvenir.
L'un de vos héros, Ocean Vuong, c'est Roland Barthes qu'on entend au sujet de sa mère dans un documentaire de 1980, soit l'année de sa mort. Vous le citez dans votre recueil de poésie « Le temps est une mère » et vous pensez que la mère est un sujet inépuisable. Vous dites même que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait pour votre mère. Elle était analphabète, donc elle n'a jamais pu lire vos livres. Mais je me demandais, lui avez-vous déjà lu vos livres ? Puisque je sais qu'elle assistait à vos conférences.
It's a very difficult reality that
c'est une réalité très difficile. La personne qui m'a poussée à devenir écrivain ne peut pas lire mon travail. Mais je crois que c'est pour ça justement qu'une grande partie de mon œuvre interroge le langage. Si vous envoyez une bouteille à la mer en sachant qu'elle va couler et que la personne dont vous voudriez le plus qu'il puisse le lire ne l'aura jamais, alors l'interrogation devient est-ce que la langue suffit ? Est-ce que les mots suffisent ? Qu'est-ce qu'une prière sans mots ?
What is joy without articulation?
Qu'est-ce qu'une joie qui ne peut pas s'exprimer?
So the cessation of language is just as palpable to me.
Et donc c'est quelque chose d'aussi palpable pour moi, ce rapport à la langue. J'ai longtemps cru à l'idée de Wittgenstein qui disait que les limites de ma langue étaient les limites de mon monde. Mais pendant 10 ans, en tant qu'étudiant, j'ai vraiment cru adopter ce credo. Et puis je me suis rendu compte que cette idée n'avait jamais imaginé l'existence d'une personne comme ma mère. On supposait donc que puisqu'elle n'avait pas de langage, elle n'avait pas d'imaginaire. Et que sans cet outil, qu'étaient les mots, on lui niait son humanité, sa capacité à penser, à ressentir. Et je pense que ce n'est pas vrai. Donc c'est important pour moi aussi de comprendre qu'il y a aussi une vie tout à fait légitime au-delà de la langue. Sans langue, il y a quelque chose que nous pouvons ressentir au-delà des mots. Et même en tant qu'écrivain, c'est quelque chose que je respecte profondément. Je ne peux pas prétendre que ce que je fais est plus noble. On sait que beaucoup de guerres commencent par des mots.
So books are just this medium that we use for better and for worse.
And so I think my mots ne sont que des médiums qu'on utilise pour le meilleur ou pour le pire. Et donc cette ambivalence du pouvoir de la langue, c'est vraiment puissamment mêlé à cette interrogation que je fais du médium en tant que tel.
Il y a des éléments biographiques dans vos deux romans, Un bref instant de splendeur ainsi que L'empereur de la joie qui vient de paraître en français chez Gallimard, dont la première version est parue sous la forme d'un essai dans The Adroit Journal à l'été 2025. Comment ça, un essai ? Ça m'a surprise de lire ça.
J'ai
toujours pensé que l'œuvre d'une vie C'est le fondement de l'imaginaire. Saint Augustin, les confessions, est-ce que c'est de l'autofiction? Est-ce que c'est une confession vraiment en tant que telle? Est-ce que ce sont des mémoires? Est-ce que c'est une prière?
Eh
bien, je crois que c'est tout à la fois. Ce qui m'intéresse dans le travail autobiographique, c'est que les enjeux historiques de mes personnages sont toujours des enjeux qui me parleront à moi en tant que personne. Je ne peux pas tourner le dos à leurs apories, à leurs paradoxes. Je ne peux pas prétendre m'abstraire dans la science-fiction ou la fantasy, tourner le dos à la réalité qui est la leur. Et pour moi, c'est un défi enthousiasmant. Je ne peux pas simplement balayer d'un revers de la main tout ce qui leur arrive en disant que ça ne sort que de ma tête et que tout ça est imaginé. Il y a toujours un projet historique et contingent. Et donc les enjeux de mon récit, ce sont les enjeux de ma vie. Et je ne critique pas les personnes qui n'écrivent pas de cette façon-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui me parle parce que pour moi, le potentiel le plus élevé de la littérature, c'est justement que c'est un médium qui permet de mieux se connaître, d'apprendre à se connaître par sa phrase, en sachant qu'on n'arrivera tout à fait jamais au fond de ce mystère qu'est l'identité, mais une identité qui est si vaste. Et en même temps, j'aurais de la chance si je peux continuer à faire ça deux ou trois fois plus longtemps encore que ce que j'ai déjà fait.
Il y a des choses que je vais forcément relier à votre histoire personnelle dans le livre « L'Empereur de la Joie ». Déjà, le héros, Hai, garçon d'origine vietnamienne de 19 ans, qui est accro aux médicaments, qui se prépare à se suicider au début du livre, a menti à sa mère en lui disant qu'il allait faire une école de médecine loin de chez lui. Et vous, vous aviez menti à votre mère pour qu'elle soit fière de vous en disant que vous faisiez une école de commerce alors que vous vous droguiez, vous lisiez, vous alliez à des open mic dont on parlait tout à l'heure. Et la seconde chose, c'est que dans ce livre, il y a une grande mélancolie, comme souvent dans vos écrits, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Et je crois que ça, c'est assez inédit, parce que vos amis disent que vous êtes très drôle dans la vie, mais triste dans vos livres, mais là, c'est la première fois, je crois, que vous n'avez pas peur d'utiliser l'humour en littérature.
Thank you for that.
Merci de l'avoir relevé.
Well, I think humor is very hard.
L'humour, c'est très difficile.
I think stand-up comics are the closest people to poets.
Je crois que les comiques qui font du stand-up sont sans doute le plus proche des poètes. Ils doivent raconter une histoire avec énormément de concision, avec un sens du timing, avec un choix extrêmement précis des mots pour que ça fonctionne. Et donc, pour moi, la frontière est très fine entre le stand-up et la poésie. Mais il y a énormément d'enjeux aussi dans le rire parce que c'est un véritable remède. Et pour être franche, je n'étais pas assez fort pour réussir dans mes textes précédents. J'ai essayé, mais souvent j'avais l'impression de trahir l'humour. L'humour, la joie pour ces femmes qui m'ont élevée, qui étaient analphabètes et qui possédaient si peu en Amérique. L'humour, le rire, c'était extrêmement puissant pour elle. C'était quelque chose d'omniprésent. On ne passait pas une journée sans entendre leur rire. Et les larmes, tout autant. Leurs larmes étaient tout aussi puissantes. J'ai été élevée par des femmes qui n'ont jamais eu honte de pleurer. Et je n'ai jamais honte de pleurer. Quand elles pleuraient, elles étaient les femmes les plus dignes qui soient, les plus puissantes qui soient, parce qu'elles étaient tout simplement connectées à ce qu'elles étaient, à leurs émotions. Elles n'avaient pas honte de qui elles étaient de leur histoire. Et je me suis rendu compte qu'elles étaient les premières dans ma vie à avoir fait de l'autofiction. Elles se prenaient leur expérience, elles le mythifiaient. Elles en faisaient un système de connaissances qu'elles pouvaient partager avec leur fils. Et donc, cette histoire devenait édifiante. Elle édifiait la communauté. Et je me suis dit que si je pouvais écrire avec moitié autant d'enjeux, moitié autant de puissance que ce qu'elles faisaient, quand elles racontaient leur histoire, leur autofiction à leur fils, je serais très fière. Mais je crois que je ne suis pas encore à leur niveau.
Vous avez dédié ce livre à une certaine Gradzina qui est disparue. Et il y a une Gradzina qui est l'un des personnages principaux de ce roman. Et dans ce livre, il y a énormément de fantômes. Il y a un moment, une phrase où vous dites « même les fantômes vous le diront ». Et à la fin, vous avez une bibliographie, puisque vous avez toujours été très généreux avec les références littéraires dans vos recueils de poèmes ou vos romans. Et vous citez Mark Fisher, « Ghost of My Life, Writing on Depression, Hauntology and Lost Futures ». Je laisse Marguerite Capelle traduire ce titre. Je viens à votre rescousse, parce que peut-être vous ne l'avez pas retenu par cœur, ce que je comprends. « Ghost of My Life, Writing on Depression ».
Les fantômes de ma vie, écrire sur la dépression.
Hauntology and Lost Futures.
Donc la science de la hantise, un jeu sur ontologie et avenir perdu.
Merci beaucoup. Ocean Vuong, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce livre et de vos rapports aux fantômes?
Mark Fisher is a theorist that
Mark
means
Fisher
a lot to me.
Est quelqu'un de très important pour
Ghost
moi.
Ghost of My Life, he talks about this idea.
C'est un théoricien qui dans ce livre parle
called, reflexive libidinal.
This idea that de cette idée
reflexive impotence is
d'une impotence, d'une impuissance réflexive,
who opt out of productivity, not because they're lazy,
celle des jeunes
or they
qui
refuse to work,
décident de tourner le dos à la productivité, non pas parce qu'ils sont paresseux ou parce qu'ils n'ont pas de rêve, mais parce qu'ils savent que le système est biaisé et qu'ils ne peuvent pas réussir. C'est l'idée que ça n'a aucun sens de rechercher le succès ou le progrès parce qu'on n'y arrivera pas. Et donc pour Fisher, ça devient la réalité inévitable du capitalisme. Le capitalisme conduit forcément au socialisme d'après Marx, puisqu'il doit exploser. Et pour Fisher, de la même manière,
alienates and sabotages,
on est dans un système de gouvernement qui sabote
will lead to its populace opting out.
Pousse,
and so
qui sabote les opportunités de sa population et les pousse à en sortir et les pousse à choisir de tourner le dos au système.
In the early aughts with the opioid epidemic.
Et je crois que c'est quelque chose qui me parle dans ce que j'ai observé enfant pendant l'épidémie d'opioïdes. J'ai vu mes amis qui étaient des artistes, des personnes créatives. Je n'étais pas plus ambitieux que ces amis, je n'étais pas plus intéressant qu'eux, je n'étais pas plus créatif. Mais ces personnes, ces amis ont perdu leur vie à cause de ce massacre
Purdue Pharma and the Sackler
perpétré
family,
par les grandes industries pharmaceutiques de Purdue Pharma, etc., et qui ont conduit à un massacre et à des milliers de morts. C'était presque une guerre contre la population pour le profit de ces multinationales. Ce n'est pas très différent de Monsanto et des profits qu'ils ont tirés de l'agent orange pendant la guerre du Vietnam. C'est vraiment devenu la quintessence de l'histoire américaine.
Subjugation of the populace for corporate profit.
Au profit des grandes entreprises, cet assujettissement de la population au profit. Et donc, ce qu'il peut y avoir de plus puissant, c'est de refuser de tourner le dos au système. Et c'est quelque chose qu'on observe un peu partout en Amérique. Et c'est un livre aussi qui justement tourne le dos à l'idée d'un progrès linéaire. Il n'y a pas d'échappatoire dans le livre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie, qu'il n'y a pas d'espoir. J'insiste toujours sur ce point. Être américain, c'est être pris au piège dans un pays libre, emprisonné dans un pays libre. On nous dit qu'on est libre, mais on n'a que quelques choix seulement qui s'offrent à nous. Aucun homme politique ne nous représente réellement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-il possible de mener une vie qui vaut la peine d'être vécue dans une cage? Je n'ai pas la réponse, mais mon travail est d'essayer de répondre, d'organiser, de structurer cette question.
Thank you.
entend votre choix musical, Ocean Vuong, 17 by Youth Lagoon. Un petit mot dessus.
The song is about the speaker telling us that their mother
C'est une chanson dans laquelle
told them to dream.
Et la personne raconte comment sa mère lui a appris à rêver. Et c'est magnifique parce que on croit mener une vie dans laquelle on reçoit cette mère humaine imparfaite et qui a des problèmes. Et malgré tout ce qu'elle a traversé, ma mère m'a toujours dit de rêver et de faire ce que je voulais. Elle ne m'a jamais mis la pression pour devenir médecin, pour devenir homme d'affaires. C'est quelque chose que j'ai fait tout seul parce que je voulais prendre soin d'elle et parce que je voulais la tirer de sa pauvreté. Mais elle a toujours eu tellement de respect pour les ambitions que chaque personne peut avoir, de réaliser ce qu'il souhaite, ce qu'elle souhaite. Elle me disait toujours, fais tout ce que tu veux. Même si tu échoues, le pire qui peut t'arriver, c'est de finir dans le salon de manucure à côté de moi et on travaillera ensemble et on rendra les autres beaux. Qu'est-ce qu'il y a de si mal à ça?
Et
c'est devenu très puissant pour moi en tant qu'artiste parce que
If there's no limits to what I do,
je me suis toujours dit que s'il n'y avait pas de limite à ce que je pouvais faire et si les attentes de ma mère étaient simplement que je puisse être à ses côtés ou travailler à l'usine et que c'était des carrières qui pouvaient être dignes, et bien dans ce cas-là, j'étais libre d'expérimenter tout ce que je voulais. Et j'ai appris qu'en tant qu'écrivain, la place la plus intéressante pour moi n'était pas l'ambition, les idées. C'était la position de désobéissance. En fait, j'avais cette liberté-là, celle de désobéir. J'avais cette liberté de questionner les règles. Et c'est ce que je dis à mes étudiants. À chaque fois que vous entendez une règle, qu'elle soit sociale ou que ce soit dans votre travail créatif, quand vous demandez pourquoi, en général, la règle tombe en morceaux et vous obtenez beaucoup plus par cet entêtement, cette désobéissance. Mais pour ça, il faut demander plusieurs pourquoi. En général, personne n'arrive à ce pourquoi-là. Et ma mère, pourtant, elle, qui ne savait pas ce qu'était l'art et qui ne savait pas ce qu'était l'écriture, elle m'a encouragée à répéter mes pourquoi et à continuer à suivre mes rêves et à désobéir. Et je crois que je ne serais pas là si je n'avais pas eu une mère comme ça. Et cette chanson, elle me rappelle ça.
J'aimerais qu'on termine cet entretien en écoutant l'un de vos poèmes. Et ça tombe très bien, puisqu'il y a la sortie conjointe réunie en un seul ouvrage des recueils Ciel de nuit, blessé par balle et Le temps est une mère, dans la collection Poésie Gallimard, traduit par Marc Charron et Marguerite Capelle, qui est avec nous ce soir. Et je vais donc demander à Marguerite Capelle de lire en français un des poèmes qu'elle a traduit.
Théorie de la neige. Quelle journée fantastique. Je n'ai rien tué depuis 2006. L'obscurité dehors, humide comme un nouveau-né. J'ai corné le livre et immédiatement songé à la masturbation. Comment revenir à nous sinon en pliant la page de sorte qu'elle pointe vers le meilleur passage? Encore un pays qui brûle à la télé. Ce qu'on aura toujours, c'est ce qu'on a perdu. Dans la neige, la silhouette sèche de ma mère. Promets-moi que tu ne disparaîtras plus, ai-je dit. Elle s'est allongée un moment pour y penser. Une à une, les maisons éteignaient leur lumière. Je me suis couchée sur sa silhouette pour la garder fidèle. Ensemble, nous avons fait un ange. On aurait dit une chose détruite par un blizzard. Je n'ai rien tué depuis.
Merci beaucoup. Je laisse les auditeurs découvrir le reste. J'avais 100 milliards de questions à vous poser en plus, mais je vous remercie simplement d'être venu. Ocean Vuong, merci beaucoup.
Thank you so much. It's a deep honor. Enchanté.
Merci beaucoup, enchanté. C'était un honneur.
La version française de votre roman L'Empereur de la Joie est parue chez Gallimard dans une traduction d'Hélène Cohen. Vos recueils de poèmes Ciel de nuit, blessé par balle et Le temps est une mère sortent rassemblés dans le même ouvrage. Chez Gallimard toujours, traduit par Marc Charron et Marguerite Capelle, que je remercie également pour la traduction de ce soir. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Fanny Leroy, Anaïs Boucher et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Loïc Frapsos. Thank you.